Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower-than-low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Bonjour à tous, je suis Alice Haché, je vous souhaite la bienvenue dans l'empreinte. Nous allons essayer de comprendre ensemble comment les marques d'aujourd'hui s'engagent ou non pour notre planète. Chaque semaine, je reçois donc des start-upers, des PDG de grands groupes ou encore des directeurs de la RSE qui m'expliquent comment leur entreprise s'engage pour porter une révolution de l'impact sur notre planète. Dans ce nouvel épisode de l'Empreinte, j'ai le plaisir de recevoir Franck Hélary, le directeur général adjoint du Crédit Agricole Immobilier, la filiale du groupe bancaire engagé en faveur du développement des territoires et des filières agricoles et agro-industrielles. C'est pas une super promesse, hein ? C'est un super groupe quand même. Hein ?
C'est une belle promesse, oui. Oui, c'est une belle promesse. C'est un beau groupe qui agit sur l'ensemble du territoire avec l'ambition d'aider les territoires et d'aider les entreprises et d'aider les particuliers au quotidien que ce soit le monde professionnel, le monde agricole ou la vie du quotidien. La banque, c'est une forme de proximité immédiate avec les clients. Et donc, le Crédit Agricole a toujours eu sa présence en local, hein, c'est une des rares banques qui a ses agences bancaires partout en France, qui ne les a pas fermées, au contraire, qui les développe pour avoir la proximité avec le terrain, les territoires et les habitants.
Et donc toi, tu t'occupes de la filière IMO, oui. Vaste sujet aussi aujourd'hui, parce qu'on le sait, en fait, on a entre les passoires énergétiques, le manque de logements, puis les logements vides, enfin, plein de sujets abordés. Tu me parles d'une révolution verte, je crois bien, du bâtiment.
Alors, déjà, quand on s'appelle Crédit Agricole Immobilier, filiale d'une banque verte, la révolution, elle est engagée depuis longtemps au principe de la raison d'être du groupe, hein, qui est d'agir chaque jour dans l'intérêt de la société et de ses clients. Et c'est ça qui drive notre quotidien pour toutes les filiales du groupe et entre autres l'immobilier, puisqu'on sait bien que dans la révolution d'un côté énergétique, social et environnemental, le bâtiment et l'immobilier a une place importante, principalement sur le carbone. Donc oui, pour nous, c'est un quotidien, un travail quotidien pour essayer effectivement d'impacter les territoires, d'impacter positivement les territoires sur les démarches qu'on peut avoir.
Concrètement, comment est-ce que ça se matérialise ? Quelles actions vous mettez en place ?
Tout d'abord, on a plusieurs métiers au sein de Crédit Agricole Immobilier.
Ouais,
on est à la fois promoteur, que ce soit en résidentiel ou en tertiaire, c'est-à-dire qu'on construit des immeubles, on fabrique, on les construit.
Pour réhabiliter un max, j'imagine.
Alors, ça, c'est un autre métier directement. On a une direction à l'intérieur de tout ce qui est transformation de bâtiments. On en a fait une spécialité parce que le groupe a beaucoup d'immobilier en France avec nos caisses régionales et nos filiales du groupe. Et donc, on remet au goût du jour régulièrement les bâtiments. Et on a une expertise là-dessus depuis des années que l'on souhaite et que l'on développe avec les clients du groupe également. Donc, on apporte cette expertise supplémentaire que peu de gens sur le marché. On est aménageur, donc on travaille avec les villes, les collectivités territoriales dans l'évolution des quartiers, des modes de vie, des modes d'habiter, de l'aménagement en général. Et puis de l'autre côté, on a le client final, qu'il soit locataire ou utilisateur, c'est-à-dire qu'on gère les biens, soit pour des clients particuliers où on a la gestion immobilière des biens à la location, soit en tant que syndic, soit aussi pour des clientèles institutionnelles où on gère leurs immeubles et leur patrimoine, que ce soit résidentiel ou tertiaire. Donc, ce qui nous permet d'avoir une vision, on va dire, relativement universelle en ayant les différents clients utilisateurs ou acquéreurs, les collectivités territoriales directement, pour essayer de répondre le plus en plus aux besoins. C'est-à-dire qu'un des éléments essentiels de la transition ou de la trajectoire qu'on doit prendre, ce n'est pas construire un produit pour construire un produit, c'est écouter l'usager, définir le besoin qu'il a ou qu'ils ont, et fabriquer le produit à la carte de ce besoin.
Oui, et puis là, tu me parles de fabriquer, on parle de sobriété avec le GIEC. On a beaucoup de bâtis existants. Alors, parfois, pas aux normes, hein, même souvent, j'ai envie de dire. Mais est-ce que l'avenir du bâti, ce ne serait pas justement la réhabilitation, un bâti qui serait réversible, parce que construit pour peut-être soit habiter le particulier, puis après faire des bureaux ou inversement. Je pense qu'il faut un peu réinventer notre construction, enfin notre façon de construire.
Alors, dans le neuf, oui. Dans le neuf, il faut réinventer et on va dire que le temps le plus important à passer, ce qui n'était pas forcément le cas avant, c'est le temps de la conception du bâtiment. C'est-à-dire qu'on allait très vite à déposer des autorisations administratives pour les obtenir et construire. Aujourd'hui, plus on réfléchit à l'usage du bâtiment demain et à la manière dont il pourrait être transformé dès sa conception, plus on a la capacité de le construire à un coût abordable et plus il sera réellement transformable dans le temps. Donc la conception avec l'ensemble de l'écosystème avec nous, que ce soit les architectes, que ce soit les bureaux d'études, il faut partir dès le début sur une conception vertueuse, par exemple d'un immeuble de bureau pour le penser en logement ou en hôtel demain, ou inversement, de pouvoir essayer de concevoir le bâtiment dès son origine pour qu'on enlève le moins de choses le jour où on veut le transformer, le moins de matériaux, et qu'on puisse le transformer plus facilement.
Mais aujourd'hui, on voit aussi qu'on a quand même beaucoup de béton. Est-ce que vous essayez de construire sur des zones déjà bétonnées, entre guillemets, plutôt que d'aller prendre nos parts de nature?
Aujourd'hui, on parle beaucoup de reconstruire la ville sur la ville. C'est plutôt le sujet. La majorité de la population est en ville. Donc, c'est là que ça se passe. Il faut savoir quand même qu'on attend, si on prend les chiffres de l'INSEE, on attend plus de 3 millions de personnes à horizon 2040.
Alors, rien apparemment, qu'en France. Alors, je ne sais pas si c'est bon signe ou pas, ou si c'est à cause à la fois des pandémies, du réchauffement climatique et tout. Apparemment, ce chiffre est en train de drastiquement diminuer. C'est pas bon signe, hein. Ça veut dire qu'on va plutôt en décroissance. Voilà. Mais non, à la base, oui, l'INSEE partait sur ça, mais c'est récent, j'ai lu une étude là. Et récemment, en fait, l'étude a un peu a contredit cette étude-là de l'INSEE qui date un petit peu avant, donc elle est très très récente, cette étude que j'ai lue, il faudrait que je vous la ressorte, et qui expliquait qu'en fait, finalement, cette explosion de la population allait pas être si explosive à cause des pandémies, du réchauffement climatique, etc., des cancers, bref, je vous passe les détails.
Il y a sans doute eu un coup de frein, et je ne suis pas analyste, donc je vais pas rentrer dans les chiffres. Ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, on voit, d'un côté, même si on prend que la population actuelle, sans évolution de population sur le territoire français, vous avez plus de 2 millions de mal logés, et vous avez une demande qui continue à être considérable de logements pour toutes les populations. Donc, dans tous les cas, il y a un besoin aujourd'hui à faire qui est principalement situé dans les villes. Et donc, c'est à ce titre qu'il faut faciliter l'acte de construire, mais l'acte de construire responsable. Et c'est toute la difficulté aujourd'hui où on va dans une démarche environnementale où on empêche l'acte de construire, alors que plus on va être en capacité de construire responsable, plus on va avoir financé l'innovation.
Mais construire responsable, est-ce que ça inclut des matériaux vertueux? Parce que le béton, c'est quand même pas fou, niveau empreinte carbone. Comment est-ce qu'en fait, j'ai l'impression que c'est quand même tout un écosystème dans le bâti, parce qu'au-delà du fait qu'on bétonise, il y a le béton, il y a les matériaux qu'on extrait pour construire, il y a toute la logistique qu'on met en place, ça a une empreinte, tout ça.
Bien sûr, bien sûr. Non, mais c'est tout. C'est, en fait, on est dans une révolution verte, on est dans une révolution industrielle.
Mais c'est ce que tu me disais avant, et je trouve que c'est très juste, en fait. On parle que de transition écologique énergétique, en fait, je pense que c'est une révolution industrielle carrément.
Exactement. C'est-à-dire que si on se mettait, par exemple, rêvons, si on se mettait à tout construire en bois aujourd'hui,
j'adorerais. Bon, on prendrait feu avec la...
Non, mais on n'aurait pas les forêts nécessaires ou on n'aurait pas les filières d'approvisionnement nécessaires. Donc, c'est la même chose partout. C'est-à-dire que si on met les conditions de la réussite de ça, oui, la terre crue, le bois, il y a des filières possibles pour construire autrement qu'en béton. Et puis, il y a aussi à travailler le béton de façon innovante avec du béton décarboné, comme certains essayent de le travailler aujourd'hui. Donc, on a la possibilité de le faire. Simplement, il faut sponsoriser ces filières. Moi, je vais vous prendre un exemple tout bête. On a une grande opération d'aménagement en Île-de-France, du côté de Melun, où on est propriétaire de pas mal d'hectares de terrain. Plutôt que de les laisser en friche, on y a planté du chanvre au niveau du terrain, pour l'entretien, etc. Bon, on a gagné le Grand Prix de l'urbanisme transitoire de la région Île-de-France là-dessus, mais c'est pas pour ça que je le dis. C'est que derrière, la filière du chanvre s'est intéressée à ces dossiers et on a travaillé avec eux pour aider des gens, des architectes, des entrepreneurs qui voulaient monter un nouveau process constructif de panneaux à ossature bois avec du béton de chanvre à l'intérieur en isolation. Donc, on les a aidés. Ça s'appelle Wallop. C'est une société nouvelle qui travaille. Et donc, sur notre opération de Melun, maintenant qu'ils ont monté l'usine et qu'on les a aidés là-dedans, eh bien, on va faire notre première opération avec ces matériaux. L'idée, c'est de pousser la filière. Mais individuellement, on peut faire un tas de petites actions. Mais si on veut vraiment être dans le cadre d'une révolution industrielle, Il faut tous être acteurs de ce changement. Et c'est toute la difficulté aujourd'hui de la révolution verte. C'est déjà que c'est mondial et que mettre tous les pays d'accord, c'est extrêmement compliqué. Donc, il faut essayer d'être dans les bons élèves. Et que on voit qu'aujourd'hui, la responsabilité des États, des collectivités territoriales, elle est importante. Il faut qu'ils poussent la réglementation. Il faut qu'ils nous obligent à travailler. Mais la responsabilité des entreprises est aussi extrêmement importante aujourd'hui.
Tous. C'est pour ça que quand tout le monde un peu se rejette un peu la balle en disant « Mais non, il nous faut des lois, il faut que tout le monde y mette la main à la pâte. »
Exactement. Une révolution industrielle, c'est changer le paradigme d'une société. Aujourd'hui, on a vu, qui pouvait prévoir, il y a 2 ans, ce qui vient de se passer ? Quel analyste, qui a prévu
La pandémie
qui s'est passée, exactement. Non, personne. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on peut vivre des choses, comme tout grand changement, qu'on n'a absolument pas prévu. En revanche, l'urgence climatique, elle est prévue. Alors qu'elle soit à 10 ans, 20 ans, 30 ans, 50 ans, qu'on se soit trompé d'1%, etc., on sait qu'on y va. Donc là-dessus, l'enjeu, il est plutôt d'aligner l'ensemble, que ce soit du public et du privé, pour essayer de combattre ce sujet. Et notre génération, pour ça, elle est extrêmement intéressante, parce qu'on a vécu la société de consommation et la consommation de masse. Et qu'aujourd'hui, on se responsabilise en voyant nos enfants et en voyant les plus jeunes, de se dire qu'il y a intérêt à faire quelque chose pour la société. Alors oui, les entreprises, elles sont responsables. Oui, les entreprises, elles peuvent pousser un certain nombre des choses. Mais il faut être exemplaire partout si on veut arriver à transformer de façon cruciale ou importante la société. Et là-dessus, il y a beaucoup de déclarations. Une fois de plus, on va nous bloquer de la construction en disant « c'est pas bien de construire ». Le sujet n'est pas là. Le sujet est de nous aider à dire comment on construit de mieux en mieux, comment on organise des filières pour éviter le béton et mettre plus de bois dans nos opérations, comment on diffuse la pierre qu'on va aller chercher, comment on peut aller travailler sur la terre crue, comment on fait ces filières en France, comment on limite le départ. Je rappelle qu'en France, on est un des plus grands producteurs de bois. Peut-être qu'il faut se poser la question au moment où on parle d'indépendance énergétique des pays, de garder notre bois pour organiser une filière et devenir un des leaders mondiaux du bois. Peut-être que ça commence par là, plutôt que le bois prenne des avions, des bateaux et autre chose, ils nous reviennent derrière. Donc ça commence par là. Construire en bois, on sait le faire. Mais gérer une filière pour maîtriser un prix, pour continuer à ce que le logement soit abordable et pour loger les gens, ça c'est de l'intérêt général. Et tout le monde devrait être aligné sur ce sujet-là. Ce n'est pas l'opération laboratoire qu'on doit faire, c'est l'opération en quantité pour pouvoir loger les gens. Et ça, c'est la grande partie de la construction neuve. Et plutôt que d'interdire, au contraire, il faut organiser ça. C'est une réelle filière de construction. Les gens, on sait qu'il y a un besoin en France.
Et abordable, du coup, tu me parlais d'accessibilité aussi. Toi, tu veux rendre ça accessible. Parce que forcément, si tu mets en place une nouvelle filière, il y a moins d'offres.
Enfin, c'est une évidence. C'est-à-dire que c'est toujours la même chose. La première chose que vont vous dire les gens, ah bah oui, mais on prend des matériaux nouveaux, donc c'est forcément plus cher. C'est la massification qui va faire baisser les prix. 2, si les filières sont organisées et aidées par l'État et les collectivités territoriales, on saura maîtriser les prix. Donc c'est pas un sujet à prendre une fois de plus par les moyens, c'est un sujet à prendre par la vision et l'envie de le faire. Une fois de plus, la responsabilité des entreprises est engagée, mais il faut que ce soit l'ensemble des acteurs qui participent à ça pour aller vite. Et puis, peut-être pour élargir un tout petit peu le propos, quand on parle de responsabilité d'entreprise, on parle de RSE, responsabilité sociale et environnementale ou économique.
Tout à fait, c'est hyper important de le rappeler.
Et donc aujourd'hui, on est sur ces deux éléments, sur la révolution, on va dire, industrielle de la société ou la révolution. Il y a l'environnement, mais il y a aussi d'être, je reprends le terme, universel, c'est-à-dire de pouvoir concerner toutes les populations. Les mal logés, c'est souvent les populations les plus en difficulté. Et donc, c'est là-dessus qu'il faut aller travailler aussi. Bah, c'est pas uniquement...
C'est eux qu'il faut aider. Voilà. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je te disais qu'il y a un nombre de bâtiments vides, tu sais, d'anciens, enfin de tertiaires, qui ont été complètement abandonnés, en plus avec la pandémie, télétravail, tutti quanti. Et que tu as une demande de logement, des personnes qui sont dans la rue, etc. Enfin, tu as l'impression que parfois on marche sur la tête et moi je vois les bâtiments vides ou même vides allumés. Ah oui, ça c'est un autre truc. Ceux qui montrent que, comme les avions qui volent à vide. C'est des choses comme ça, j'ai l'impression que parfois le système, enfin la société marche un peu sur la tête. Et comment est-ce qu'on arrivera à connecter en fait l'humain à l'écologie et puis que les entreprises fassent ça aussi intelligemment ? C'est quand même important.
Alors,
Parce qu'il faut quand même continuer. Enfin, le but d'une entreprise, c'est quand même de faire du business. Hein. On va pas non plus. Pas, c'est pas une ONG, c'est pas un monde de bisounours. Mais l'entreprise a son rôle dans la société, en fait. Elle a un vrai rôle à jouer.
Elle a un vrai rôle et de plus en plus important aux yeux des consommateurs.
Bien sûr.
Si je vais un cran plus loin, aux yeux des collaborateurs. Parce qu'aujourd'hui, pour être attractif sur le marché, dans nos métiers, il faut attirer, c'est-à-dire qu'il faut être responsable. La majorité des nouvelles générations et des jeunes ne viennent pas travailler dans une entreprise uniquement pour faire du lucratif, mais aussi pour servir la société, avoir un intérêt dans la société.
Et avoir du sens pour eux, en fait.
Exactement.
Ils ont besoin de sens.
Et donc, ça, c'est une opportunité magnifique de notre époque. C'est que ce qui était la responsabilité, la RSE, dans les rapports annuels des entreprises...
Que personne ne lisait.
Que personne ne lisait trop, est devenu un élément essentiel et stratégique de la vie des entreprises pour pouvoir coller à la société, se développer et continuer potentiellement à faire du profit. C'est évident, une entreprise, c'est aussi fait pour faire du profit.
C'est ça, il faut quand même le rappeler. C'est ça qu'il y a aussi parfois certains nous disent qu'il faut, oui, mais alors là, ils ne sont pas assez investis. Il faut rappeler qu'une entreprise reste une entreprise.
Exactement.
Mais ce qu'il faut aujourd'hui, c'est que l'entreprise... On parle de raison d'être, tu en parlais, donc la loi PACTE 2019 qui a demandé aux entreprises de définir une raison d'être. L'entreprise peut même devenir société à mission. Elle a un vrai
Exactement.
Rôle à jouer. Et puis aujourd'hui, acheter, c'est voter. Et souvent, et on achète quand même plus que l'on ne va voter au présidentiel, c'est ce que
Tout
je veux dire.
Fait.
Donc c'est hyper important que l'entreprise s'inscrive dans cette dynamique, en fait, aujourd'hui.
C'est important, c'est nécessaire, et j'ai tendance à dire c'est vital.
Pour l'entreprise, aujourd'hui, c'est vital.
Exactement. Et c'est là où on est dans une révolution. C'est-à-dire qu'effectivement...
On va l'appeler la révolution du sens, comme ça.
Alors, c'est redonner du sens à un certain nombre de choses, et c'est surtout se donner les leviers de le faire. C'est-à-dire que...
Et le faire.
c'est une obligation. Alors là, je reviens sur deux de mes petites marottes, mais une entreprise, ça évolue par ce qu'on appelle l'amélioration continue. C'est-à-dire que... On prône l'innovation, on pousse des petites choses, et c'est les petites évolutions du quotidien ou la volonté de l'entreprise de changer, de faire évoluer son métier, etc. Et puis, il y a ce qu'on appelle l'innovation de rupture. Aujourd'hui, nous sommes dans une innovation de rupture. C'est-à-dire qu'il faut lier les deux, continuer à innover, à faire notre travail. On ne va pas le faire le grand soir de révolutionner tous les logements et tous les bureaux du monde demain.
Mince, je pensais que tu allais me dire ça, je suis désolée.
Mais c'est se mettre dans un plan, dans ce que j'appelle la trajectoire.
Mais rapidement quand même, parce qu'on n'a plus beaucoup de... Enfin, ce qu'il faut se dire, c'est qu'aujourd'hui, on doit vraiment accélérer.
Oui.
Au-delà de mettre en place, aujourd'hui, il faut qu'on accélère, en fait.
Oui, mais pour accélérer, il faut pouvoir contrôler et puis savoir d'où on part. Parce que c'est bien de dire, on peut construire en bois, on peut construire en pierre, on peut...
Mais faut calculer.
Comment on le fait exactement ?
Bien
Donc,
sûr.
Nous, typiquement, comme un certain nombre de mes confrères... commence par une chose, c'est faire notre bilan carbone.
Ah bah oui, maintenant ça devrait devenir obligatoire, je pense, pour les entreprises.
Ça viendra sans doute, mais en tout cas, on part de quelque chose qu'on essaye déjà de chiffrer de façon claire pour savoir quel est l'axe de progression. Parce que si on n'a pas de choses pour s'étalonner, c'est extrêmement difficile. On est plutôt au stade de ce qu'on a fait depuis presque 10 ans, Crédit Agricole principalement, hein, chez nous, c'est de faire des bâtiments laboratoires. C'est-à-dire, là, j'ai construit en bois, là, j'ai fait un bâtiment zéro.
Et c'est ceux-là
zéro.
Qui ont d'ailleurs des labels ou des trucs
Exactement.
Ou des prix.
Exactement.
Mais c'est dommage.
C'est comme ça qu'on a fondé l'association BBCA.
Ouais.
C'est comme ça qu'on est dans un tas d'associations. Le booster du réemploi, où j'étais encore hier avec les dirigeants, sur tous les réemplois de matériaux, etc. Mais c'est encore au stade embryonnaire.
C'est ça. Je suis entièrement d'accord.
À partir du moment où on va tous se fixer les objectifs, on n'est plus concurrents. Là, on est tous dans un sujet où, de toute façon, une fois de plus, c'est une révolution et c'est une obligation. Donc, si on part chiffré, on va dire, d'où on vient et où on veut aller, déjà, c'est plus facile à piloter. Et là, on est une entreprise responsable, puisque quelque part, on informe de l'évolution de ce qu'on fait. Ce n'est pas déclaratif, c'est le faire. Le faire et le montrer. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'on nous demande, c'est d'apporter la preuve de ce qu'on est en capacité de faire. Et c'est ces preuves, les unes après les autres, qui vont transformer la société. Ça, pour l'environnement, on le voit, on a démarré tout petit sur un sujet qu'on a lancé qui s'appelait Nature en ville. Alors, c'était une petite porte d'entrée, mais c'était de dire dans toutes les opérations immobilières que vous faites, redonner la place aux extérieurs, aux jardins, à la nature, à la biodiversité.
Okay.
Voilà. C'est pas marrant, mais le Covid est arrivé. Tous les gens qui vivaient dans nos immeubles où on a mis ça en place nous ont remerciés parce qu'ils ont profité. Et maintenant, c'est étonnant, mais c'est rentré dans l'ère immédiate où il faut profiter des extérieurs, il faut passer du temps là-dessus. Bon, voilà, on avait ce petit embryon qu'on a mis sur maintenant entre 50 et 70% de nos projets.
Et les autres pourcents, c'est vraiment du bâti pur et pas...
C'était de la réhabilitation où des fois, il n'y avait pas une zone verte à côté, où c'était des projets sur lesquels on ne pouvait pas le faire directement. La même chose dans les villes, dans les projets d'aménagement, dans les réhabilitations, les rooftops. Regardez, aujourd'hui, ça fleurit partout les rooftops parce qu'on utilise la dernière façade.
C'est un gain de place, en fait.
Donc, c'est un gain de place, c'est des jolies vues, c'est sans doute un peu de vert, c'est des zones humides qu'on peut mettre sur les toitures. Alors qu'à une époque, c'était les zones techniques qu'on mettait sur les toitures. Donc, comme quoi, avec peu de choses, on arrive à modifier. Puis après, il y a le mode constructif et il y a l'engagement qu'on va prendre, effectivement.
Comment est-ce qu'on repense aussi le bâti? Est-ce qu'on doit le repenser plus solide avec des avec le réchauffement, on va avoir de plus en plus de sécheresses, de catastrophes naturelles, en fait, qu'on ne connaît pas encore beaucoup, nous, en France. On est un peu épargnés. Enfin, en été, ça dépend un peu des zones, mais un petit peu épargnés, quand même. Hein.
Oui. Là-dessus... Comme le Covid, je pense qu'il nous arrivera des choses qu'on n'a pas encore pu même percevoir.
J'espère qu'on...
En revanche, comme je vous disais, la majorité se concentre quand même dans les villes.
Oui, d'accord.
Donc, dans les villes, prévoir un peu ce qui peut arriver demain, entre les crues, décennales, centennales, etc., on peut arriver à mettre. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de risque, mais en tout cas, on peut être assez vigilant sur ce type de risque. Et la réglementation française n'est quand même pas la dernière pour essayer d'être préservant sur ce type de risque. Maintenant, on n'est pas à l'abri, mais on ne construit pas dans la pampa. Généralement, on est quand même plutôt dans des villes, donc c'est assez
pas
maîtrisé.
Pas trop en zone côtière non plus.
Moins en zone côtière. Vous savez qu'avec la loi littorale, en France, on s'est protégé, ce qui n'est pas le cas d'autres pays. Hein. Il y a des pays qui construisent encore en plein bord de mer. Et nous, on a pris ces précautions en France, et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a les mesures de ces sujets-là. C'est pour ça qu'une fois de plus, je reviens là-dessus, mais l'interdiction de construire n'est pas la solution. Au contraire, quand on veut modifier quelque chose, ce n'est pas l'interdire. Ça n'a jamais fonctionné. Je vais vous prendre une analogie, si vous me permettez.
Bien sûr.
On prône la suppression du véhicule et le développement des modes de mobilité douce. Mais pour le prôner et pour le développer, il faut y mettre les infrastructures. Prenez le pourcentage du nombre d'accidents aujourd'hui qu'il y a au niveau des deux roues parce que les infrastructures ne sont pas en protection des personnes qui utilisent. Alors, je parle du vélo.
Ouais, parce que la deux roues, c'est vrai qu'on pense moto, mais moi, je vois très bien pour le vélo ce que tu veux dire, parce qu'il y a eu un accident dans ma ville mortel. Hein.
Voilà, donc il y a un moment donné, c'est bien de se dire qu'on veut faire les choses, mais il faut qu'on soit aidé à les faire. Alors, moi, là, je parle en tant qu'aménageur. Quand on travaille sur un projet d'aménagement, les mobilités douces, ça fait partie immédiatement de l'axe de réflexion. Mais comme on reconstruit la ville sur la ville, il faut réfléchir très en amont et ne pas avoir peur d'investir là-dessus. Et là-dessus, c'est par exemple un vrai sujet. Je vous en prends un deuxième sur les voitures. On prône la voiture électrique. Je m'interroge, moi, sur la voiture électrique. Pourquoi ? Parce que immédiatement, c'est bien, mais en pensant aux générations futures...
Alors, immédiatement, c'est bien. Non, parce que pour le moment, on ne recycle pas les batteries. Voilà. Donc, immédiatement, c'est pas bien.
Oui, alors immédiatement, on baisse les gaz à effet de serre parce qu'il va y avoir plus de véhicules électriques que de...
Pas vraiment, parce qu'en fait, le temps de fabriquer toutes tes batteries, en fait, justement, ce qu'ils pensent, c'est que ce n'est pas immédiatement que c'est bien. C'est que c'est quand on aura fabriqué des batteries que du coup, il y en aura moins à fabriquer vu qu'on va les recycler, c'est là que ce sera bien. Sauf que le problème, c'est que pour le moment, on n'en est pas à ce process-là. Là, pour le moment,
exactement.
On est dans la cata.
Exactement. Et donc, c'est pour ça que je dis, on pousse une solution, on n'a pas le traitement. Fallait-il batailler sur le véhicule électrique ou sur le véhicule à hydrogène ? Et où doit-on mettre l'argent demain pour développer une filière ? Ça, quand je parle de révolution industrielle...
Pour que la filière hydrogène se développe, et ça, je te le dis parce que j'ai Mathieu Giard récemment, il faut du renouvelable. Donc, il faut que la filière renouvelable puisse donner... Non, mais on est tous complètement liés.
Exactement. C'est bien pour ça que je dis qu'on est dans une révolution et que c'est l'ensemble. Donc, chacun doit être responsable de ce qu'il fait. Ça, c'est clair. Et je pense que le constat a été fait et quelque part, le Covid, on peut en prendre un élément positif, ça a accéléré, ce qui est marrant, c'est qu'on parlait de santé et ça a accéléré la prise de conscience de tous des problématiques environnementales. Ça, avec un fond gilet jaune qu'on a vécu en France, eh bien, ça met au centre la responsabilité des entreprises. Et pas que, mais en tout cas des entreprises, quand on est chef d'entreprise, au milieu de ça. C'est-à-dire, d'un côté, travailler avec la société pour l'améliorer et travailler sur l'environnement et les problématiques environnementales, et de l'autre côté, travailler autour des populations les plus fragiles pour les aider. C'est ça qui est la responsabilité sociale et économique de l'entreprise.
Le temps file, donc je vais te poser une dernière question. Est-ce que tu aurais envie d'ajouter quelque chose qu'on n'aurait pas abordé ensemble ?
Comme toute révolution, il faut prendre ça comme une opportunité. Donc, il faut y mettre du positif, de l'envie, et c'est très important d'incarner. C'est-à-dire que, moi, il y a un terme que j'aime beaucoup qui s'appelle la résilience. Notre quotidien, c'est d'avoir des vents contraires. Qu'ils soient aujourd'hui des choses qu'on ne maîtrise pas, le Covid, tout un tas de choses.
Dans la vie, on ne maîtrise rien.
Des réglementations. Et c'est ça, en fait, toute la difficulté, c'est qu'un, il faut rester résilient et il ne faut pas dévier de sa trajectoire. Et mon deuxième mot, c'est trajectoire. Il faut se fixer. Comme dans sa vie, une trajectoire. Et cette trajectoire, aujourd'hui, il ne faut pas en sortir. Alors même si on a quelques années de retard ou quelques années d'avance, on aura fait ce qu'il fallait pour les générations futures et on aura suivi notre trajectoire. Ça ira peut-être pas assez vite, mais en tout cas, on se sera fixé les objectifs pour le faire. Donc voilà, mes deux mots, moi, c'est résilience et trajectoire.
Merci beaucoup Franck, on va garder ces deux mots en tête.
Merci beaucoup.
Merci à vous d'avoir écouté cet épisode. Vous pouvez retrouver tous les épisodes sur toutes les plateformes de podcast. N'hésitez pas à liker, partager et commenter le podcast. À très vite.